Donc nous voici arrivés à la quatrième leçon sur la culture. Donc c'est une notion très vaste qui vous plaît bien en général, parce qu'elle peut nous amener à parler de sujets très variés comme la philosophie, évidemment la philosophie humaniste et classique, mais aussi l'ethnologie, des cultures plus exotiques, plus éloignées de nous, et pourquoi pas la question du cannibalisme. On peut définir la culture au sens le plus large comme l'ensemble des manières de vivre, d'agir et de penser qui ont été instituées par les hommes pour organiser leur vie en commun au sein de la société. On peut distinguer schématiquement deux conceptions de la culture. L'une que j'appellerais classique ou humaniste et qui privilégie la dimension spirituelle, intellectuelle et artistique de la haute culture en quelque sorte. C'est la culture de l'esprit tournée vers l'acquisition de connaissances et la fréquentation des grandes œuvres de l'esprit humain, des œuvres littéraires, artistiques, scientifiques. Et puis une deuxième conception qu'on peut appeler anthropologique et qui souligne davantage le caractère quotidien et ordinaire de la culture. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, même sans y penser, y compris les choses les plus banales, comme faire ses lacets ou se brosser les dents, peut être considéré comme culturel. Ainsi, la première conception établit une hiérarchie entre les cultures humaines selon qu'elles sont plus ou moins conformes à certains modèles de référence, mais en séparant du même coup la culture ou la civilisation d'une part de ce qu'on pourrait appeler d'autre part la barbarie ou la sauvagerie. Tandis que si on suit la conception que j'ai appelée anthropologique de la culture, alors on considérera que toutes les sociétés humaines sont dotées en quelque sorte de culture et que ces cultures doivent être considérées finalement comme égales. Une question qui peut se poser à propos de la culture, c'est même la question fondamentale, je pense, c'est la question de ce qu'on appelle la nature humaine, entre guillemets, la question de la nature humaine, puisque à l'arrière-plan de toute réflexion philosophique sur la culture, apparaît une réflexion sur l'homme, sur ce qu'on appelle sa nature ou son essence, autrement dit, les caractéristiques nécessaires, universelles et intemporelles par lesquelles il serait éventuellement, point d'interrogation, possible de le définir. La deuxième question qui vient au sujet de la culture, c'est, me semble-t-il, la question de la relativité des cultures. Ou voire de ce qu'on appelle le relativisme culturel, c'est-à-dire, relativité des cultures, donc des valeurs morales, politiques, esthétiques, intellectuelles, etc., qui soutiennent une culture. Cette question est liée à la question précédente, c'est-à-dire celle de la nature humaine. S'il existe une nature humaine, ça veut dire qu'il existe des valeurs universelles, le bon, le juste, le beau, le vrai, etc., qui seraient partagées par tous les hommes, communes à toutes les sociétés et à toutes les époques. Au contraire, si on met en avant la relativité, ça signifie que, on affirme qu'il n'y a pas de valeur universelle, que toutes les valeurs diffèrent selon le contexte social et culturel, historique, géographique, etc., et qu'on doit toujours examiner les valeurs en situation, en quelque sorte. Donc, une dernière question qui peut se poser, c'est celle du rapport de l'homme avec son environnement naturel, et par exemple avec les animaux. Puisque finalement, alors c'est aussi une question liée au problème de la nature humaine, si on dit que l'homme a une nature, ça veut dire qu'il se distingue de tous les autres êtres vivants, mais cette question évidemment soulève un certain nombre de problèmes. Est-ce qu'au fond, on doit considérer qu'il y a une coupure, une césure entre la culture et la nature, ou bien au contraire, est-ce qu'on peut considérer que la culture humaine finalement s'ancre dans un substrat naturel, et on peut même aller jusqu'à se demander ce que font aujourd'hui un certain nombre de scientifiques. Par exemple, Dominique Lestel, s'il n'existe pas des cultures animales ou si on ne peut pas trouver chez les animaux des rudiments ou des préfigurations de comportements culturels. Alors, par exemple, les grands singes et notamment nos plus proches cousins, les chimpanzés, ont, semble-t-il, certains comportements, par exemple, utiliser des pierres pour casser des noix ou des fruits, voire prendre une branche pour chasser un ennemi ou un adversaire. Ça pourrait être éventuellement envisagé comme des comportements culturels, mais au stade évidemment rudimentaire. L'homme peut-il vivre sans culture? Alors, nous allons traiter ce sujet en essayant de dégager d'abord la problématique. Cette problématique se dégage assez bien, me semble-t-il, des définitions, des distinctions conceptuelles qu'on vient de faire. La réponse à la question du sujet est sensiblement différente selon la conception de la culture que l'on adopte. Dans un cas, il serait possible d'affirmer que certains hommes sont moins cultivés que d'autres, voire totalement dépourvus de culture. C'est le sens humaniste et classique de la culture. Dans l'autre cas, le sens anthropologique, une telle affirmation devient impossible, étant entendu que toutes les sociétés humaines se conforment à des normes culturelles qui définissent leur manière particulière de vivre, d'agir ou de penser. En résumé, le problème est donc ici de concilier deux conceptions antagonistes de la culture, telles que nous venons de les analyser et les définir.